que vous allez suivre est une rediffusion. Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. À l'heure de la rentrée littéraire de ce mois de janvier 2020, je vous propose de commencer cette nouvelle année par la fin. Eh oui, la fin, hélas, d'une saga romanesque inaugurée en 2013 avec Au revoir là-haut, prix Goncourt, poursuivi avec Couleur de l'incendie 5 ans plus tard et qui s'achève aujourd'hui avec Miroir de nos peines, publié aussi aux éditions Albin Michel. Une trilogie historique et humaine qui nous émeut et nous enchante depuis ses débuts, qui embrasse 3 décennies, les années 20 et les conséquences de la Première Guerre mondiale, les années 30 dans une France en pleine mutation et désormais 1940, année où après un conflit éclair, les Allemands envahissent notre pays. Archive.
Mesdames, messieurs, nous avons le regret de vous informer que nous sommes dans l'obligation de suspendre le spectacle, la région parisienne venant d'être mise en état d'alerte. Veuillez donc gagner sans hâte les abris qui vous ont été indiqués. Notre personnel vous guidera. Vous avez tout le temps nécessaire.
Bonjour Pierre Lemaître.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur de cette fresque qui raconte la vie des Français sur 3 générations, mais sans suivre les mêmes personnages d'ailleurs, puisqu'après Albert le soldat et son camarade Édouard gueule cassée, nous avons frémi avec les aventures de Madeleine, la sœur d'Édouard, et voici que l'une des protagonistes de Miroir de nos peines est Louise, que nous avons aperçue enfant, mais que nous retrouvons ici adulte. Voulez-vous bien nous présenter Louise, s'il vous plaît?
Alors, Louise est une petite fille à 10 ans, dans Au revoir là-haut, qui est assez calme, presque mutique. C'est une petite fille qui est marquée par une double douleur, la mort de son père à la Première Guerre, et le fait que sa mère est devenue... très dépressive, elle passe son temps à regarder par la fenêtre. Donc 20 ans plus tard, au moment où nous la retrouvons dans Miroir de nos peines, elle a 30 ans, c'est une jeune institutrice de Paris, et elle fait un petit peu de service dans le restaurant de Monsieur Jules, qui est juste au coin de sa rue, dans lequel elle a fait le service quand elle était jeune étudiante, et qu'elle poursuit encore par amitié pour ce monsieur. C'est une jeune fille un peu malheureuse parce qu'elle n'a pas pu avoir d'enfant. Et ce désir d'enfant va beaucoup, beaucoup marquer sa destinée, à commencer par la partie de sa destinée qui sera traitée dans Miroir de nos peines.
Miroir de nos peines, de Pierre Lemaître, lu par l'auteur. Louise était jolie fille, mais jamais prête à l'admettre. « Il y en a des dizaines plus jolies que moi », se répétait-elle. Elle avait eu du succès auprès des garçons, mais bon, toutes les filles ont du succès, ça ne veut rien dire. Institutrice, elle ne cessait de repousser les avances des collègues et des directeurs quand ce n'était pas des pères d'élèves qui tentaient de lui mettre la main aux fesses dans les couloirs. Ça n'avait rien d'inhabituel, c'était comme ça partout. Elle n'avait jamais manqué de soupirant. Parmi eux, Armand. 5 ans, dûment fiancé, attention. Louise n'était pas du genre à jeter sa réputation en pâture aux voisins. Ses fiançailles avaient été une sacrée histoire. Madame Belmont avait sagement laissé la mère d'Armand à la manœuvre, la réception, le vin d'honneur, la bénédiction, plus de 60 personnes invitées, et Monsieur Jules, dans son frac, Louise apprit plus tard qu'il l'avait loué dans un magasin de décors et costumes de théâtre, il était trop juste de partout, sauf le pantalon qu'il ne cessait de remonter comme au sortir de sa cuisine, et chaussé d'escarpins vernis qui lui faisait des petits pieds de chinoise, Monsieur Jules, donc, qui jouait les propriétaires au prétexte qu'il avait fermé son restaurant pour offrir sa salle. Louise s'en fichait, elle avait hâte d'aller au lit avec Armand, dont elle voulait un bébé, qui n'était jamais venu. L'histoire traîna en longueur, dans le quartier on ne comprenait pas, on finit par regarder les fiancés d'un œil torve, suspicieux. Reste-t-on 3 ans ensemble sans se marier? Ça n'existe pas. Armand avait demandé le mariage, avait insisté. Louise attendait que ses règles s'arrêtent pour dire oui et repoussait tous les mois. La plupart des filles priaient le ciel de n'être pas enceinte avant le mariage. Louise, c'était l'inverse. Pas de bébé, pas de mariage. Mais ça ne venait pas.
Petite parenthèse, à quel moment, Pierre Lemaître, décidez-vous que ce sera Louise, cette silhouette aperçue dans le premier volume, qui sera l'héroïne de ce troisième?
Alors, je prends un risque absolument énorme. En 2013, je termine Au revoir là-haut en indiquant dans l'épilogue reste la petite Louise, dont le destin ne fut pas tellement remarquable jusqu'à ce qu'on la retrouve dans les années 40. Alors, j'ai écrit ça sans avoir la moindre idée de ce que deviendrait cette petite Louise dans les années 40, mais en feuilletoniste un peu expérimenté, vous savez, on laisse toujours des portes ouvertes pour le cas où on aurait besoin d'emprunter le couloir. Donc, j'ai fait Couloir de l'incendie avec Madeleine Péricourt. Et puis, quand je suis arrivé troisième, je me suis dit, j'ai dit quelque chose sur Louise, il s'agirait maintenant que je tienne ma promesse. Alors, tout le monde l'avait oublié, à commencer par vous, Catherine, parce que c'est une petite ligne qui a disparu depuis 2013. Mais moi, que j'avais gardé en mémoire, m'étais dit, c'est un personnage prometteur. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un personnage prometteur pour un romancier? C'est un personnage qui n'a pas épuisé son potentiel narratif, qui présente un certain mystère et qui vous permet donc de développer une intrigue. Et cette petite fille, pour les raisons que j'ai évoquées dans votre première question, était intéressante, elle avait un bon potentiel romanesque. Et donc, j'ai essayé de croiser la destinée individuelle de cette jeune fille avec cette période de juin 40 qui est celle de la débâcle et de l'exode, qui est un événement massif. 10, 11 millions de personnes vont se mettre à marcher du nord au sud de la France en direction de la Loire, en direction d'Orléans, saisies d'une véritable panique devant l'arrivée des troupes nazies. Et la petite Louise va être prise dans ce flot de millions de personnes à la recherche de la vérité sur un secret de famille.
Effectivement, nous suivons donc Louise, mais parallèlement, deux autres récits, pour commencer, composent le roman que vous tricotez, Pierre Lemaître, en mêlant ces trois fils, et bientôt même une quatrième voix viendra compléter votre récit choral, qui est donc une tapisserie de cette France, en effet, en pleine débâcle. Mais d'ailleurs, d'une certaine façon, on peut dire aussi, Pierre Lemaître, que les personnages que vous choisissez sont dans une débâcle personnelle. Louise, qui en effet n'a pas d'enfant et est un peu en souffrance, elle n'a pas d'amoureux. Et puis un épisode très choquant et violent va la heurter dès le début du roman. Mais aussi Gabriel et Raoul, ces deux militaires que vous nous présentez assez vite, qui sont complètement dépassés par les événements et qui, à leur corps défendant, pour sauver leurs pauvres, vont devenir aussi des déserteurs.
Oui, tout à fait. Alors, tous ces personnages vivent, en tout cas, une sorte de déroute personnelle. Mais au fond, cette déroute va à la fois être amplifiée par la débâcle militaire de 40, et en même temps, l'exode va être, d'une certaine manière, l'épreuve de vérité face à cette déroute. Et on verra de quelle manière, à la fin n'est pas spécialement malheureuse dans ce livre. Au fond, tous ces personnages trouvent la voie du salut de leur existence, bizarrement, à l'issue de ce drame qui est l'exode. L'exode, vous savez, Catherine, c'est un épisode qui m'a beaucoup frappé, qui m'a fait peur, parce que lorsque j'ai décidé de m'y attaquer, j'ai regardé ce qu'il y avait comme roman. Et il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Quand je dis il n'y en a pas, il y en a tellement peu. Il y a la suite française de Nemirovski, un bouquin de Sabatier, un autre de Sagan. Enfin, il y a très peu de choses. Et je me suis dit, mais comment se fait-il qu'un événement qui a été aussi considérable, il n'y a pas d'équivalent dans l'histoire de notre pays, d'une mutation aussi soudaine et d'une panique aussi générale. Je me suis dit, mais pourquoi ça n'a pas intéressé les romanciers? Et puis l'idée que je m'en suis faite, c'est que finalement, c'est une période dont les Français n'ont pas envie qu'on leur parle. Et donc, quand je m'en suis aperçu, je me suis dit, est-ce que j'ai bien raison de choisir ce sujet-là? Bon, et puis en fait, c'était mon sujet, donc j'ai écrit mon livre. Mais je ne l'ai pas mis au fond dans les librairies avec la joie au cœur et l'optimisme fervent, parce que j'avais un petit peu peur que cet épisode soit un épisode dont les Français n'avaient pas envie qu'on leur parle.
Et on va en reparler, nous, tout à l'heure, parce que c'est très important. Je disais des personnages en déroute, sauf un. Désiré,
oui.
Exceptionnel homme, une sorte d'imposteur, ou plus exactement un homme caméléon qui, selon les circonstances, est instituteur, avocat, porte-parole du gouvernement.
Pilote de ligne, alors qu'il a jamais piloté un avion.
Voire curé. Et justement, c'est un profil qui rappelle celui de Frank Abagnale, qui a inspiré le film de Steven Spielberg, Catch Me If You Can. Un homme qui a réellement existé d'ailleurs. Comment est venu sous votre plume ce magnifique Désiré, Pierre Lemaître?
Écoutez, au début, j'avais simplement besoin d'un menteur. Et puis, ça arrive comme ça, que les personnages, non pas vous surprennent, ils ne sont pas autonomes, enfin, j'entends rester le patron dans la boutique qui est mon roman. Mais en tout cas, ils peuvent prendre plus d'importance que vous n'aviez prévu. C'est le cas, par exemple, d'un personnage qui s'appelle Monsieur Jules. Au début du livre, bon, c'est simplement le patron du restaurant dans lequel Louise va faire le service le samedi et le dimanche. Et puis, page après page, il prenait de l'épaisseur, il prenait de la rondeur, et puis il m'intéressait, il m'amusait. Et finalement, il va accompagner le livre quasiment jusqu'au bout. Alors ça, ce sont des surprises qui naissent dans l'écriture, et c'est comme ça qu'est né Désiré. Au début, c'était simplement un menteur. Et puis, il est progressivement devenu un mythomane. Puis après, il est devenu un usurpateur. Et finalement, il a grandi en quelque sorte dans ce roman. Et au bout d'un moment, j'ai vraiment posé le stylo en me disant, bon, là, peut-être que ce personnage peut devenir l'une des clés du roman. Et de fait, je me suis rendu compte que toutes les lignes narratives conduisaient d'une certaine manière à cet homme, et que cet homme allait pouvoir être, à la fin du livre, la vérité de chacun des personnages. Donc il avait non seulement une fonction sociale, mais il avait aussi une fonction un peu maïotique par rapport au personnage.
Et en même temps, Pierre Lemaître, ce n'est pas la première fois que vous abordez le thème de l'imposture. Alors, à des fins plus malhonnêtes, Désiré, pour le coup, lui, même si à la fin il fait une petite entourloupe, mais on lui pardonne bien volontiers parce que, entre-temps, il aura fait du bien aux gens qu'il a côtoyé. Mais qu'est-ce qui vous intéresse dans le thème de l'imposture, Pierre Lemaître ?
Peut-être par le fait que, comme beaucoup d'autodidactes, j'ai fait des études, mais beaucoup plus tard. Enfin, je suis fondamentalement un autodidacte. Donc, on a toujours un petit peu l'impression, quand on n'a pas les diplômes, dans une société dans laquelle, au fond, pour être labellisé, pour être légitime, il faut montrer patte blanche. Et que patte blanche, ça commence par avoir un cursus normé, normatif. Comme je l'ai pas suivi, j'ai souvent eu l'impression, au fond, d'être un usurpateur. Vous voyez, je faisais de l'enseignement en littérature, j'avais jamais fait d'études de lettres. Et donc, je me disais, mais quelle légitimité as-tu pour donner des cours de littérature à des gens qui sont bibliothécaires et dont c'est le métier, vous voyez. Donc j'ai toujours vécu dans ma vie professionnelle des moments où je me suis posé la question de l'usurpation. Donc en fait, d'une certaine manière, je parle toujours un tout petit peu de moi à travers ces personnages. C'est certainement la raison pour laquelle ce thème habite un tout petit peu mes livres. Sans compter que il y a rien de plus réjouissant qu'une arnaque bien montée. Enfin, je veux dire, regardez, au cinéma, on adore les moments où on fait une grande arnaque. Souvenez-vous du film L'Arnaque avec Robert Redford, qui était vraiment un film touché par la grâce. Rien n'est plus jubilatoire que la façon dont on peut essayer de blouser son voisin, quoi. C'est terrible.
Et d'une certaine façon, est-ce que Désiré n'est pas aussi un peu le double du romancier ?
Oui, alors, Désiré, il a une intuition des rapports humains. Il a des fulgurances. Vous voyez, ce qu'il va faire avec Louise à la fin du livre, la vérité qu'il va dire à d'autres personnages, on a l'impression qu'elle lui tombe du ciel. Hein, c'est un petit peu normal, puisqu'il est dans une soutane, hein, dans cette période-là de sa vie. Mais il y a quand même chez lui une compréhension très aiguë de la nature humaine.
Ne me dis pas que tu m'adores. Embrasse-moi de temps en temps. Un mot d'amour, c'est incoloré, mais un baiser, c'est éloquent. Ne me fais pas de longs poèmes, ne parle pas de tes émois. Pour me prouver combien tu m'aimes, de temps en temps, embrasse-moi. Dans tes bras, prends ma vie de quart de main. Tu me quittes, tu dois m'indemniser. Il faut bien que je fasse provision de baiser. 4 jours, c'est bien long. Sois prudent, chérie. Surtout rappelle-toi, si tu m'écris, ne me dis pas que tu m'adores, mais pense à moi de temps en temps. Car bien de fois le cœur ignore ce que la main écrit souvent. Ne jure pas d'être fidèle, je veux le croire malgré toi. Mais si les filles là-bas sont belles, de temps en temps, dis, pense-moi. Du 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 du, du 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 du, do 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 do, do 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 do, do 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 do, do.
à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI, en compagnie aujourd'hui de l'écrivain français Pierre Lemaitre, avec qui nous feuilletons le troisième et dernier tome de sa trilogie, paru ici sous le titre « Miroir de nos peines » aux éditions Albin Michel, qui nous fait vivre d'avril à juin 1940 le chaos dans lequel la France est plongée avec l'arrivée des soldats allemands sur son territoire, qui deviendra ensuite évidemment la Seconde Guerre mondiale. Et comme souvent, donc avec vous, Pierre Lemaitre, vous racontez cette grande histoire, mais par ses faits annexes. Et ici, vous racontez l'Exode à travers un épisode qui, je crois, a réellement eu lieu, mais qui n'est guère connu, à savoir comment plus de 1000 hommes, des prisonniers, ont été déplacés sur les routes de France, sur plusieurs dizaines de kilomètres qu'il fallait parcourir à pied, pour rejoindre une caserne, et ce, sous les bombardements des avions allemands, dans des conditions totalement insensées.
Oui, et puis déjà la décision est insensée.
Alors, vous nous confirmez que ça a bien existé.
Oui, absolument. Absolument, c'est très bien documenté par un historien qui s'appelle Jackie Tronel, que je remercie d'ailleurs parce qu'il m'a bien aidé à comprendre ça. Pour l'expliquer un petit peu aux auditeurs de Littérature sans frontières. En 1940, une espèce de psychose anticommuniste. Le Parti communiste a été interdit, donc beaucoup de communistes sont enfermés dans des prisons militaires pour reconstitution de partis interdits, pour sabotage, etc. Et le fantasme des hommes au pouvoir dans cette époque-là, c'est que les communistes vont libérer les prisonniers et que tout ce petit monde va aider les nazis à prendre Paris. C'est une espèce de fantasme assez étrange comme ça, quand on le regarde avec un siècle, un demi-siècle de recul. Toujours est-il que c'est la pensée anticommuniste qui va dominer la réflexion des politiques, qui vont dire on peut pas laisser ces gens-là dans les prisons, il faut donc les déplacer. On va donc, comme vous le disiez, prendre plus de 1000 personnes, 1300 personnes, quelque chose comme ça, on va les mettre sur les routes, sauf que pour les gardiennes, on va mettre quelques centaines de gendarmes, 50% d'évasion. Ce qui veut dire qu'on arrive exactement au résultat inverse, c'est-à-dire qu'on voulait surtout déplacer ces gens-là pour qu'ils ne soient plus dangereux, et 50% d'entre eux vont être en liberté. C'est typique d'une décision irréfléchie, prise uniquement en fonction d'un fantasme idéologique qui n'a pas de réalité. C'est-à-dire il y avait rien pour démontrer qu'il y avait un vrai complot communiste pour aider les nazis. Enfin, ça ne s'appuyait sur rien que sur une croyance. Et c'est cette croyance qui, d'une certaine manière, dirigeait la France. Et c'est aussi cette croyance qui le fait perdre la guerre.
Et c'est cet épisode qui vous intéresse parce qu'il est méconnu. Et parce qu'il en dit beaucoup sur la désorganisation, sur la paranoïa de l'époque. Et justement, une autre histoire absolument étonnante, qui est vraie aussi, celle que nous raconte, ou en tout cas dont est témoin ou à laquelle participe Fernand, le dernier de vos personnages, qui arrive un peu en cours de route, mais qui sera aussi très important. Comment des millions de francs,
des milliards
ont été brûlés par le gouvernement pour que les Allemands ne s'emparent pas de la monnaie française.
Oui, tout à fait. Alors, je trouve comme ça dans le livre d'Henri Amouroux, ce fait, ça prend deux, trois lignes, il dit simplement le fait. Hein, voilà, on a brûlé. En tant que je suis allé à la Banque de France, j'étais regardé le dossier, j'ai exhumé le dossier, et effectivement, alors d'abord, il y a des photos de ce qu'est à cette époque-là cette usine d'ici les Moulineaux, qui est une usine d'incinération d'ordures ménagères. Et on va effectivement faire venir des camions remplis de billets parce que l'une des grandes terreurs, c'est que les nazis s'emparent de la monnaie française. Comme si déjà en s'emparant de la capitale, ils n'avaient pas gagné déjà la guerre d'une certaine manière. Et donc on va les brûler et on demande à qui de les brûler, à des types qui à l'époque doivent être à 75% du SMIC, vous voyez, du SMIC de l'époque, enfin, ça n'existe pas, mais vous voyez, c'est pour situer un peu. Et donc ces gars-là qui gagnent 300 francs, 400 francs peut-être par semaine, peut-être 1000 francs par mois, vont brûler des milliards qui représentent au fond la fortune de la France. Et en fait, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est la modestie des gens à qui on demande de le faire. Et on va faire brûler 2-3 milliards de francs à des types qui sont des ouvriers du bas de l'échelle sociale. Et donc ça m'intéresse, moi, de mettre en scène cette scène. Et puis une fois que je l'ai mise en scène, d'inventer une nouvelle arnaque, parce que décidément, je suis incorrigible.
Non, puis ce qui vous intéresse, j'imagine, c'est l'indécence aussi.
Oui.
Il y a quelque chose vraiment d'insupportable.
Il y a quelque chose d'insupportable. D'ailleurs, le texte le dit un petit peu. Il dit au fond, au début, ça les a choqués. Et puis après, ils ont continué à brûler ces éboueurs, ils ont continué à brûler ces milliards, parce qu'ils savaient de toute façon que cet argent ne leur avait jamais appartenu.
Une indécence sociale, monétaire, la question de la désinformation, puisque Désiré, dans un premier temps, va œuvrer justement à rassurer les bons Français en leur donnant des mauvaises informations pour que personne ne s'inquiète. La question des réfugiés, tous ces gens jetés sur la route, sans ressources, avec les enfants, les femmes, sans nourriture. Bien entendu, ce sont des scènes qui existent depuis longtemps dans l'histoire du monde, malheureusement. Mais le fait que ici, vous, Pierre Lemaître, vous soulignez peut-être un peu plus ces sujets, est-ce que c'est une manière habile de nous dire que voilà ce qui se passe aujourd'hui et peut-être aussi une forme d'écho de ce qu'on a connu il n'y a pas si longtemps?
Oui, ou de ce qu'on connaît encore aujourd'hui.
Oui, c'est
au fond,
ça.
Nous avons nous sommes dans un pays qui, en grande partie, doit renouveler ses repères. C'est que ces repères ne sont pas les bons. Prenons par exemple le repère du progrès et de l'industrie. On sait que avec le réchauffement climatique, il va falloir changer de modèle. Donc, on est en perte de repères, en train d'essayer de construire et d'essayer de comprendre ce que pourrait être un nouveau repère. Et dans cette période-là, on est dirigé par ses peurs et par ses terreurs beaucoup plus que par ses valeurs, en quelque sorte. Et donc, c'est normal que dans une période comme ça, on voit arriver l'étranger comme un ennemi. Et c'est assez frappant, parce que quand je regarde la façon dont se passe l'exode, on voit que les réfugiés belges et luxembourgeois qui viennent par le nord de la France sont très mal accueillis en France. C'est-à-dire comme si on leur disait, écoutez, déjà, on est dans une situation qui est très compliquée, on n'a pas besoin de vous en plus.
Alors qu'eux aussi connaissent la guerre et l'invasion allemande.
Alors qu'eux aussi, finalement, sont dans la même situation. Et en fait, ils subissent un ostracisme vis-à-vis des Français et vont donc se retrouver dans un camp de réfugiés qui sera le lieu dans lequel vont converger tous les personnages du roman et vont trouver d'une certaine manière leur vérité. Alors c'est vrai que faut se méfier, hein, dans le roman historique, faut se méfier des ressemblances entre deux périodes. Qu'on écrive sur n'importe quelle période, on trouvera toujours des ressemblances. Si j'écris demain un livre qui se passe sous la troisième dynastie Ming en Chine, on se dira certainement sur certaines choses, oh, c'était déjà comme ça.
Bon, non, c'est à peu près inévitable. Et parce que l'homme ne change pas.
Voilà, parce que le roman traite des grands universaux, des grandes passions qui, elle, traverse les siècles de manière assez chimiquement pure, en quelque sorte. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de voir quand même qu'entre deux périodes qui ne sont pas trop éloignées, il peut y avoir des harmoniques, des résonances. Et le roman, il sert à ça. Il sert à ce que, à travers une histoire qu'avant tout vous lisez pour le plaisir, pour le suspense, pour la surprise, pour l'émotion, eh bien, en arrière-fond, vous puissiez vous interroger sur la vérité de ce que vous vivez aujourd'hui, et puis simplement que le livre non pas vous donne un résultat à réfléchir ou une façon de penser, mais vous permette d'ouvrir une réflexion nouvelle sur ce qui se passe autour de vous. C'est la fonction de la littérature.
Et puis la question de la solidarité, parce qu'on le voit bien à travers l'exemple de Louise qui donc se retrouve sur cette route à pied, puisqu'elle a dû abandonner la voiture où était Monsieur Jules, et elle a dû récupérer en catastrophe deux jeunes enfants, deux jumeaux et un bébé qu'elle a dans ses bras, et pendant des kilomètres elle va marcher, elle va chercher un peu de solidarité autour d'elle. Elle ne la trouve pas forcément.
Non, elle la trouve pas. Elle va la trouver à la fin. Hein. Oui. Elle va finir par la trouver, mais ça va être effectivement un chemin compliqué. C'est-à-dire que dans ces périodes, il est intéressant l'exode parce qu'il est très fulgurant. Vous voyez, on va mettre 10, 11, 12 millions de personnes sur les routes entre la Belgique et Orléans et la Loire en quelques jours finalement. Donc la fulgurance et l'importance par le nombre d'exodiens, comme on les appelle en histoire, rend cet événement d'une certaine manière cataclysmique. Et dans ces périodes-là, chacun va se trouver en face de sa vérité. Comment l'autre va se conduire par rapport à moi? Comment je vais me conduire par rapport aux autres? Et en fait, j'essaye de tricoter, pour reprendre le terme que vous utilisez, que je trouve très juste, enfin dans lequel je me reconnais bien, j'essaye de tricoter justement une espèce de variation autour de la réaction qu'on a par rapport à l'exode. Il y a ceux qui vont bien réagir, mal réagir, ceux qui vont réagir trop tôt, ceux qui vont réagir trop tard. Enfin voilà, j'essaye de sonder un petit peu ce champ.
Mais en même temps, Pierre Lemaître, quand vous arrêtez d'écrire Miroir de nos peines, que vous faites une pause, que vous regardez la télévision, que vous lisez les journaux, vous vous dites, tiens, c'est quand même incroyable, je suis en train d'écrire des scènes qui ont lieu encore aujourd'hui.
Non, c'est l'inverse. C'est parce que je les vois à la télévision que je me dis, tiens, ça serait pas mal que dans mon livre... Ben oui, parce que vous voyez, les camps de réfugiés, ça fait deux ans que je m'intéresse à la question, trois ans que je m'intéresse à la question, parce que j'ai même été sur place, etc. Donc je connais un petit peu ce thème-là. J'étais encore loin d'écrire Miroir de nos peines. Mais simplement, quand je vois cet exode, que je vois l'arrivée de ces Luxembourgeois dans les livres d'histoire, l'arrivée des Belges et le sort qui leur est réservé, Je me dis, au fond, il se trouve dans la même situation que ces réfugiés. Donc, j'articule mon récit en fonction de l'histoire contemporaine et de l'actualité. C'est pas toujours le cas, mais pour le camp de réfugiés, c'est le cas.
Et aller déterrer des choses qu'on a bien voulu enterrer.
Voilà.
Et mettre sous le sabot.
Voilà. Alors, ce que j'essaye de faire, c'est, vous parliez tout à l'heure de l'humour, c'est vrai que le fond de ce que j'écris est souvent tragique, hein, j'écris pas sur des choses bien, bien rigolotes, hein, la destinée individuelle de Louis, c'est celle d'une jeune femme sans enfant, l'histoire de Raoul est une histoire extraordinairement triste, bon, tout ça n'est pas très gai. Mais l'humour, justement, c'est ce qui permet d'être un petit peu dérisoire, de mettre de la légèreté, et puis, d'une certaine manière, de composer avec le désespoir que ces périodes-là font naître chez nous.
C'est comme ça que vous définissez votre travail d'écrivain, Pierre Lemaître, à la fois raconter, divertir, faire des échos. Enfin, je vous vois comme un horloger, comme un témoin et aussi comme un magicien.
Alors bon, là, vous me prêtez beaucoup de vertus que je n'ai pas. Alors, un horloger, ça me va bien, je suis un artisan. C'est-à-dire, moi, je monte mes intrigues comme on monte une mécanique d'horlogerie. Il faut que les rouages soient bien à leur place. Hein, et puis que ça sonne bien quand vous écoutez la montre, vous l'approchez de votre oreille. Il faut que vous entendiez un tic-tac qui soit bien, bien réglé. Moi, mon métier, je le définis un peu, d'ailleurs, dans la suite de ce que vous dites. Je suis un fabricant d'émotions. C'est-à-dire que moi, mon travail, c'est de raconter des histoires et de créer des émotions chez le lecteur ou la lectrice. Émotions positives ou négatives. Ça peut être un attachement pour un personnage, au contraire, une détestation. Moi, mon travail, c'est de faire naître des émotions parce que ce sont les émotions qui vont faire comprendre les personnages et donc comprendre l'intrigue et donc, d'une certaine manière, comprendre la période dans laquelle cette intrigue s'inscrit.
Et par cela, vous utilisez aussi l'écriture, le style. Par exemple, à deux, peut-être trois reprises, je suis frappée en vous lisant Pierre Lemaître de voir que d'un seul coup, vous passez au présent. Pour une espèce de petite parenthèse poétique, ça, c'est la patte Pierre Lemaître, c'est un moment où on fait un petit instantané.
Vous savez, je crois pas beaucoup à la question du style, hein. Je crois pas beaucoup à ça. Je me réfère souvent à Simenon quand on disait, mais c'est quoi votre style? Il répondait, il pleut. Alors moi, je me reconnais assez bien là-dedans. Vous savez, moi, quand j'ai besoin que Jean ouvre une porte, j'écris « Jean ouvrit la porte ». Voilà. J'essaie de faire très bien des choses très simples. Mais ce que j'appellerais peut-être, en tout cas, la petite musique, vous voyez, j'essaie de trouver des mots un peu modestes pour définir ce que je fais, c'est plutôt l'illusion que je raconte le livre à voix haute. C'est-à-dire que vraiment, j'essaye de me mettre dans la situation face au lecteur, de lui conter l'histoire comme si je le faisais en direct, en face de lui. Alors ça, je crois que l'utilisation du présent, de la dérision, de l'humour, etc., viennent servir en quelque sorte ce projet qui est de réduire la distance entre moi qui écris et celui ou celle qui me lira peut-être dans un an, dans 10 ans, qui me lira peut-être même dans une langue étrangère. Donc en fait, pour moi, le lecteur ou la lectrice, c'est quelque chose de très abstrait, très lointain, je ne sais absolument pas pour qui j'écris. Et donc, ma manière à moi d'objectiver un petit peu tout ça, de me rassurer au fond, de savoir qu'il y a bien au bout de la ligne quelqu'un qui va bien lire les choses, eh bien, c'est de lui raconter comme s'il était présent. Et donc, peut-être qu'une de mes manières de faire consiste à donner l'illusion que je raconte les choses à voix haute.
Merci beaucoup Pierre Lemaître.
Merci Catherine.
On va rester sur cette jubilation que vous avez en écrivant et que vous nous procurez quand on vous lit. Et donc c'est pas tout à fait la fin puisqu'il y a encore ce troisième livre à dévorer littéralement, Miroir de nos peines, qui a paru aux éditions Albin Michel.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard. Le podcast de Littérature sans frontières à réécouter sans limite sur RFI.fr ou sur l'application RFI Pure Radio.